Le secret de l'échec de l'agenda. Il peut sembler étrange d'entendre parler d'organisation dans un livre audio comme celui-ci, mais vous allez vite constater que le temps, l'énergie et le rapport au succès ou à l'échec font partie d'un ensemble. Dans mon précédent ouvrage, « Votre temps est infini », j'ai partagé avec vous mon expérience de procrastinateur abstinent et les solutions douces mais efficaces que j'ai pu mettre en place pour maintenir cette réalité où mon temps m'appartient pleinement. Vous êtes plusieurs dizaines de milliers à l'avoir lu, à vous être reconnu et à appliquer ma méthodologie. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé dedans, mais elle est l'un des fondements d'un échec trop souvent vécu, la non-réalisation des tâches que l'on s'était fixées dans une journée, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'étais aujourd'hui même au téléphone avec Héloïse, l'avocate qui accompagne ma société au quotidien. Nous parlions de ce nouveau livre et j'abordais un doute quant à écrire ce chapitre. Sa réaction sur le sujet a indirectement enclenché l'écriture de ces lignes. Le constat est le suivant, et je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez vous reconnaître dedans. Chaque jour, vous vous fixez des objectifs de choses à réaliser, des tâches d'ordre privé, d'autres d'ordre professionnel. Je vous demande de prendre quelques secondes pour réfléchir à la question suivante. J'ai besoin que vous fassiez cette introspection. Comment déterminez-vous le nombre de choses que vous allez faire dans une journée? Prenez quelques instants pour réfléchir à cette question. Vous avez répondu ou vous avez décidé d'arrêter de chercher? Alors passons à la suite. Il est probable que, comme l'extrême majorité, vous vous soyez dit que vous regardiez le temps que prenait chaque tâche et que vous placiez donc autant de tâches que possible en fonction de la durée de chacune versus la durée de votre journée. Autre option, vous notez tout simplement tout ce que vous avez en tête et qui doit être réalisé à un moment donné. C'est logique. Et ce sont les principales causes de ce que j'appelle l'échec de l'agenda. L'échec de l'agenda est pour beaucoup une chose quotidienne. Il l'a été pour moi durant de nombreuses années et j'en connais ses conséquences. Un sentiment de culpabilité, une déception personnelle, une perte de confiance en soi. Mais si nous le vivons régulièrement, alors que nous avons l'impression de fournir tous les efforts pour réussir à tenir notre planning, si nous sommes si nombreux à le vivre, n'y a-t-il pas un problème sous-jacent? Voici comment j'ai pu identifier le problème. Dans mon spectacle, je ne fais pas appel à un metteur en scène. Cela m'est très compliqué car en mélangeant l'humour, la science et le mentalisme, mon spectacle s'écrit sur trois niveaux en permanence et il est difficile de confier réellement la mise en scène à quelqu'un. La conséquence est que je manque d'un regard extérieur. Pour compenser, je filme ou j'enregistre l'audio de chacune de mes représentations. Le lendemain du spectacle, en général dans le train qui me ramène chez moi, j'écoute la représentation et j'analyse les points faibles, les pertes de rythme, les ratés, etc., que je consigne dans un document. Une fois par mois, je regarde mes notes et j'y cherche des problèmes récurrents. Des difficultés qui ont la perversité de ne pas surgir à chaque fois, mais cycliquement, une fois toutes les trois représentations, par exemple. Dans ce genre de situation, mon cerveau ne peut pas analyser de lui-même après le spectacle qu'il y a un souci quelque part, car deux fois sur trois, tout va bien. Et pourtant, régulièrement, un défaut apparaît au même endroit. Il y a donc un problème de mise en scène à résoudre. C'est de la même manière que j'ai analysé mon propre échec de l'agenda chez moi et chez les autres. Qu'est-ce que nous ne prenons pas en compte dans la planification de notre vie personnelle et professionnelle? Quelle erreur commune faisons-nous tous? Ces questions m'ont littéralement hanté au point d'en faire un blocage dessus. Et, aussi étrange que cela puisse paraître, c'est en mettant de l'essence dans une voiture que j'ai eu un déclic. Je suis dans une station-service d'autoroute. Je reviens d'un spectacle et dois refaire le plein avant de rendre le véhicule. Tout en mettant de l'essence, mon regard se balade à la recherche d'un peu de nourriture mentale. Quand je n'ai pas envie de réfléchir, j'éprouve le besoin de lire et, dans ces moments-là, tout peut faire l'affaire, même la composition d'une boîte de conserve. Je regarde les publicités que la station dispose partout et je lis les offres promotionnelles pour gonfler les pneus, refaire les niveaux d'huile, de liquide de frein ou encore de lave-vitre. Intérieurement, je me dis que ces offres devraient surtout exister aux gares de péage, car c'est en entrant sur l'autoroute pour enchaîner des heures de voiture à pleine vitesse qu'il faut préparer son véhicule, et en sortant de l'autoroute pour remettre tout à niveau. Et c'est à partir de là, d'association mentale en association mentale, que je me dis que c'est incroyable comme rouler plus vite fait consommer plus rapidement les différents consommables d'une voiture. Pour 100 km parcourus à 90 km/h ou à 130 km/h, la consommation ne serait pas proportionnelle, mais suivrait plutôt une courbe exponentielle. Arrêt mental sur cette pensée. Je comprends mon échec de l'agenda par un rappel à la réalité. L'homme est une machine. Notre corps est une machine organique d'une fabuleuse précision, mais avec des besoins en carburant et une consommation. Que consomme-t-il ? De l'énergie, au sens large du terme. Quelle que soit la composition du carburant que consomme notre corps, nourriture, air et eau, il produira de l'énergie physique, mais aussi de l'énergie mentale. L'énergie mentale est beaucoup trop négligée, car elle est invisible. Résolvez des problèmes complexes pendant 5 heures et pour un observateur extérieur, vous n'aurez été qu'assis sur un siège toute la journée. Si nous consommons de l'énergie, cela veut dire que nous commençons notre journée avec un stock initial. Ce stock peut être réapprovisionné au cours de la journée par des repas, de l'eau et des pauses. Néanmoins, nous avons tous une énergie de base qui diffère d'une personne à l'autre. Il est primordial de préciser cette variation entre les individus, car cela lève une culpabilité que l'on peut ressentir à être au contact de personnes qui en ont plus que nous. Notre énergie moyenne n'est pas la même pour tous, c'est un fait. Il faut connaître la sienne, nous y reviendrons plus tard. Une fois que j'ai compris tout cela, je me suis attelé à imaginer mon énergie comme une grosse pile. Puis je l'ai dessinée sur une feuille. Cette pile était divisée en slots d'énergie. Il ne me restait plus qu'à trouver un étalonnage. J'ai cherché ce qui ne me procurait ni plaisir, ni effort particulier. Nettoyer ma cuisine. Peut-être souriez-vous de cet aveu étrange, mais c'est honnête. Lorsque je nettoie ma cuisine, j'écoute un livre audio, de la musique ou je discute. Je n'ai pas la sensation de faire quelque chose de difficile et pour autant, ce n'est pas un loisir qui me passionne. Faire un nettoyage de ma cuisine me prend environ 20 minutes et demande quand même un peu d'énergie physique et un peu de concentration. Mon étalon fut donc un slot de 20 minutes qui consommerait l'équivalent de l'effort qu'impose le nettoyage quotidien de ma cuisine. J'ai donc divisé ma pile en nombre d'heures disponibles dans ma journée, puis j'ai divisé chacune de ces heures en slots de 20 minutes. Une fois cette étape faite, j'ai regardé ma journée du lendemain dans mon agenda. Les tâches personnelles et professionnelles me prenaient 11 heures de ma journée. Une journée bien remplie, mais raisonnable, puisqu'il y avait aussi du personnel dedans. J'ai analysé chacune de ces tâches pour jauger la difficulté et la fatigue qu'elles provoqueraient, afin de les convertir en slots. Un slot étant, je vous le rappelle, l'équivalent de l'énergie consommée en faisant 20 minutes de ménage dans ma cuisine. Ce fut long, c'était la première fois que j'essayais de faire ça, mais j'étais très excité car j'avais l'impression de toucher quelque chose du doigt. J'ai découvert par exemple qu'appeler un organisme officiel pour régler un souci me prenait 20 minutes, mais deux slots, soit l'équivalent de deux fois mon étalon. Une fois toutes les conversions faites, j'ai pu constater que la journée de 11 heures qui m'attendait le lendemain me prenait presque 80 slots d'énergie au lieu de 33. Un chiffre tellement hallucinant que j'ai cru m'être trompé. Vous rendez-vous compte que cette journée qui rentrait si bien dans mon agenda d'un point de vue temporel allait me prendre l'équivalent de deux journées et demie d'énergie. Il était maintenant certain que je ne pourrais aller au bout car la fatigue mentale et la fatigue physique ne me permettraient pas d'assurer ce que j'avais prévu. Mon agenda était voué à l'échec avant même que ma journée commence. Zoom. Obnubilé par le temps qui passe et que nous essayons de rentabiliser, nous avons complètement oublié d'intégrer la fatigue mentale et physique dans notre système de planification. Et vous allez pouvoir changer ça dans vos vies comme j'ai pu le faire moi-même. C'est une démarche personnelle qui va vous demander de l'introspection mais également un changement radical dans vos journées. Si vous ne voulez plus vivre l'échec de l'agenda et ressentir cette déception et cette culpabilité, alors suivez la méthode de la pile. La méthode de la pile. Pour commencer, je vous propose de ne le faire que sur une seule journée afin d'appréhender un peu cette philosophie d'organisation. Si vous utilisez déjà les astuces de mon précédent livre, vous verrez qu'elles se marient très bien avec celle-ci. Analysez votre journée de demain et comptabilisez votre temps disponible entre le réveil et le coucher. Déduisez de ce temps celui que vous consacrez habituellement à votre hygiène et à vos repas. Vous obtenez donc une durée. C'est la période durant laquelle va devoir fonctionner votre pile personnelle, vos énergies mentales et physiques combinées. Dessinez sur une feuille une représentation physique de ces heures. Cela peut être une représentation d'une grosse pile que vous allez diviser selon le nombre d'heures ou d'un mur de grosses briques où chaque brique équivaut à une heure, etc. Divisez ensuite chaque ligne de votre pile ou chaque brique de votre mur en trois. Ce sont vos slots d'énergie que vous allez consommer au fur et à mesure de votre journée. Je pars du principe qu'en faisant sur cette période uniquement des tâches personnelles et professionnelles impliquant peu d'efforts physiques et peu d'efforts mentaux, alors votre pile tiendrait la journée sans problème. Mais attention, lorsque je parle d'efforts physiques et mentaux, j'entends les efforts ressentis. Rappelez-vous mon exemple précédent. Appeler un organisme officiel me demande une grande consommation d'énergie mentale. Pourtant, il s'agit simplement de tenir un téléphone et de discuter. Mais la réalité est que je consomme 2,5 fois plus d'énergie sur cette action que la durée effectivement passée. Répertoriez tout ce que vous devez ou voulez faire dans votre journée, que ce soit dans votre vie pro ou dans votre vie perso. Vous devez maintenant quantifier en slots d'énergie chaque action de votre journée, selon la fatigue physique et mentale qu'elles engendrent. Cette étape est forcément imprécise. Vous allez devoir faire des estimations, mais n'ayez pas peur de vous tromper pour le moment. Cette étape est la plus importante, mais aussi la plus personnelle. Vous devez être honnête. Ne vous jugez pas lorsque vous vous avouez certaines difficultés à faire certaines tâches. Ne vous sentez pas ridicule. Nous avons tous une nomenclature personnelle différente, avec des points faibles et des points forts. Dans un carnet, je vous recommande un répertoire alphabétique, je vous invite à noter toutes ces tâches et le nombre de slots que vous avez attribués à chacune d'entre elles. Zoom. Passons maintenant à votre agenda de demain. Vous devez replacer toutes les tâches que vous souhaitez faire dans votre journée, mais la consommation d'énergie commence. À chaque fois que vous placez une tâche dans votre agenda, vous devez remplir avec un crayon les slots d'énergie correspondants sur votre pile ou sur votre mur. Vous allez arriver à trois cas de figure distincts. Premier cas de figure. Vous avez placé toutes vos tâches et il ne reste plus de slots d'énergie. Parfait, vous êtes complètement aligné. En utilisant mes méthodes habituelles sur la gestion du temps, vous pourrez accomplir sans problème votre journée. À la fin de votre journée, vous ne vous sentirez pas épuisé mentalement ou physiquement. Deuxième cas de figure. Vous avez placé toutes vos tâches et il reste des slots d'énergie de disponibles. Parfait ! Ça n'est pas parce que de l'énergie est disponible qu'il faut absolument la consommer et la planifier. Cette énergie vous appartient et vous pouvez laisser votre agenda tel quel ou en profiter pour mettre d'autres tâches dedans. Troisième cas de figure. Vous avez utilisé tous les slots d'énergie, mais il vous reste des tâches à rentrer dans votre agenda. Danger. C'est le cas le plus fréquent lorsque j'explique cette méthode à quelqu'un. Pour commencer, pas de panique, c'est normal. Vous avez sous les yeux la preuve que cette journée allait dans la direction de l'échec de l'agenda. Le détecter, c'est pouvoir l'anticiper. La solution que je vous recommande est donc de choisir ce que vous allez garder dans votre agenda et ce que vous allez reporter sur d'autres journées. Aussi simple que cela ? Oui, vous n'avez pas le choix. Vous allez le faire consciemment et intelligemment plutôt que, quoi qu'il arrive, finir votre journée épuisée sans avoir tout accompli. Vous allez enfin avoir une vision claire de ce qu'il est possible et raisonnable pour vous de réaliser en une journée. Quelle merveilleuse avancée ! Plus d'échecs d'agenda possibles avec cette méthode. Certaines personnes m'ont rétorqué, à juste titre, que que des éléments extérieurs les obligeaient parfois à devoir utiliser plus d'énergie que la quantité disponible. Je connais bien cette situation, souvent provoquée par la vie professionnelle. Et il existe une solution dont il ne faut pas abuser. Remettre du carburant dans la machine. Le premier carburant, c'est l'eau. Vous n'imaginez pas à quel point vos muscles et votre cerveau ont besoin d'eau. Alors que je vous parle, j'ai toujours une gourde à côté de moi et dès que je ressens la moindre sensation de soif, je la compense tout de suite. Buvez chaque jour 1,5 litre d'eau minimum et le double ou plus sur les journées où vous allez dépasser votre consommation d'énergie. Le deuxième carburant, c'est la nourriture. Ne négligez pas vos repas et augmentez les encas sur les journées de dépassement. Il ne s'agit pas de manger tout et n'importe quoi. Vous pouvez manger quelque chose de sain et dont vous appréciez le goût. À titre d'exemple, pour une journée de promotion en Belgique, j'ai enchaîné 4 heures de train, 3 heures de voiture, 17 interviews presse, radio, TV. Pour tenir, j'ai mangé 5 fois dans la journée. Mes 2 repas supplémentaires étaient composés de fruits, de sucre lent et de sucre rapide. Refusez les boissons industrielles, l'alcool, les plats lourds à digérer et mangez des quantités raisonnables. Votre corps ne doit pas dépenser trop d'énergie pour la digestion alors que vous étiez venu au contraire faire le plein. Le troisième carburant, c'est le sommeil. On peut extrapoler avec repos si vous n'avez pas l'habitude de dormir dans la journée. C'est le meilleur allié pour gérer un dépassement ponctuel car on recharge l'énergie physique en même temps que l'énergie mentale. Me concernant, une sieste de 20 minutes me donne l'équivalent de 4 slots d'énergie supplémentaires, mais puisque je dois déduire un slot pour faire la sieste, je reste bénéficiaire de 3 slots en plus. À tout moment de la journée, cherchez à optimiser et à dormir dès que cela vous est possible. Pour reprendre l'exemple de cette journée de promotion, j'ai fait 3 siestes de 20 minutes dans la journée et le soir, j'ai simplement fermé les yeux 10 minutes dans mon canapé avant de finir la journée. Encore une fois, ce conseil ne s'applique que pour les journées où vous n'avez pas d'autre choix que de consommer plus d'énergie que ce que vous possédiez au départ. Pour les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir rapidement pour faire une sieste, sachez que fermer les yeux dans le calme ou en mettant une musique douce dans vos oreilles vous donnera un bénéfice également. Grâce à cette méthode et à cette philosophie de l'énergie, vous ne connaîtrez plus l'échec de l'agenda. Vous vous protégerez émotionnellement de ses effets négatifs et vous améliorerez votre estime personnelle car vous irez au bout de votre planification chaque jour. Négliger son énergie consiste à rouler vite sans regarder la jauge d'essence en espérant que la voiture ne tombe jamais en panne d'essence. Si ce livre audio vous fait changer cela, alors vous supprimerez l'échec le plus fréquent et le plus récurrent de votre vie.